started. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Des millions. Des millions, vous êtes charmant, mais.
The name's Bond. James Bond.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thème Ciné. Je suis toujours en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas.
Salut tout le monde.
Et de Jade.
Salut.
Et comme vous pouvez l'entendre, je n'ai pas appelé le grand Melvin car ce dernier nous a quittés il y a maintenant 10 ans tout pile. Non, non mais notre collègue de route est malheureusement pris dans ce que l'on appelle vulgairement la vie d'adulte et du travail actif. Donc à travers cette émission, nous rendons hommage à Melvin et à son 37 heures par semaine. Et pour lui rendre un dernier hommage, nous n'aimerons aucun film lors de cette émission.
Voilà, exactement. C'est l'histoire de faire comme s'il était là.
Voilà, nous rendons hommage à l'aigrie originelle. Bien. Et là, eh bien, pour cette émission, nous avons choisi un autre réalisateur, cette fois-ci un autre grand, mais assez différent quand même de David Fincher, il ne faut pas se mentir, à savoir Brian De Palma. Donc dans cette première partie d'émission, nous vous parlerons très succinctement de sa vie, qu'est-ce qui a influencé ses grandes réalisations. Nous discuterons d'ailleurs à propos de quelques films de sa part. Et après l'habituelle pause musicale, nous discuterons de trois films de ce réalisateur qui nous ont grandement marqués. Donc, Brian De Palma est né le 11 septembre 1940 de parents d'origine italienne. Contrairement à une grande partie des Italiens de ce moment-là, il ne va pas être éduqué dans une tradition catholique, mais dans une tradition plutôt protestante afin de bien s'intégrer dans la vie américaine. Et lors de son éducation, il y aura une grande influence des Quakers, notamment, qui vont beaucoup, beaucoup influencer sa morale. Et au tout début de sa vie, Brian De Palma, il n'est pas du tout intéressé par le cinéma. Vraiment pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est passionné par la physique et l'électronique. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'amuse à démonter et remonter des appareils pour voir comment ça marche, comment ça se passe. Mais malheureusement, sa vie ne va pas être tout calme car sa famille va être assez désunie. Car sa mère va apprendre que son père le trompe et va tenter de se suicider. Donc il y a plus joyeux hein, comme cadre familial.
Ouais, il y a plus stable. Ouais.
Et à cause de cet événement-là, c'est Brian De Palma qui va pousser ses parents au divorce en 1958.
Sympa.
C'est lui qui commande en fait.
c'est pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu vois que ta mère tente de se suicider, tu fais bon, il est peut-être temps d'en finir.
Ouais, c'est voilà. vrai.
Mais bon, si vous inquiétez pas, cette histoire se finit bien. Ses deux parents finiront par se remarier à nouveau et jusqu'à présent, ils sont heureux. Bon, c'est comme quoi, hein ? J'ai pas raison. Donc lui ensuite il va partir en études de sciences physiques à Manhattan à l'université de Columbia à Manhattan car c'est ce qui le passionne, mais là-bas en fait il va plutôt intégrer le milieu des étudiants qui sont en sciences humaines, et donc c'est à partir de ce moment-là où il va découvrir le cinéma, surtout le cinéma de la nouvelle vague française avec notamment Godard et Truffaut qui vont beaucoup le marquer. Et il va aussi découvrir Hitchcock, dont le fameux film Vertigo, ou Sueur froide en français, qui là aussi va énormément influencer son cinéma. Donc il va se réorienter en 1962 dans des études d'art, toujours à Columbia. Ça va pas vraiment plaire à son père qui va lui couper les vivres. Et donc à partir de ses études, il va étudier tout ce qui est mise en scène, étude du scénario, comédie. Et lors de ses études, il va réaliser plusieurs courts-métrages. Et c'est son troisième, qui s'appelle Wotan's Wake, je ne sais pas comment ça se prononce, qui va remporter un prix, et c'est celui de le prix du meilleur réalisateur de moins de 25 ans. Donc c'est quand même
C'est pas mal, ça motive.
C'est quand même pas mal. Et dans ce court-métrage-là, on va voir une autre, un autre penchant du cinéma qui va grandement l'influencer, c'est le néoréalisme italien, car dans celui-là, il va faire énormément référence à la Dolce Vita, notamment. Donc, après ça, il va commencer à monter des petites pièces de théâtre, toujours pour l'université. Et il sera repéré par un professeur d'art dramatique, Wilford Leach, qui va beaucoup plus le pousser à se tourner vers le cinéma. Et grâce à ce professeur, il va obtenir une bourse pour continuer ses études. Et donc là, il va continuer à peaufiner son travail sur le scénario, sur les acteurs, sur les décors. Et durant ces années d'études, il va y avoir deux gros événements qui vont le marquer, comme énormément de personnes de cette génération, c'est la guerre du Vietnam et l'assassinat de Kennedy. Pour le premier événement, en fait, lui, il va pas du tout aller vouloir combattre, et il va absolument tout faire pour ne pas se faire engager. Donc d'abord, il va se prétendre homosexuel, il va tout faire pour avoir des allergies, il va fumer comme jamais pour tousser, et au final, il sera effectivement rayé des listes d'attente, car il va déclarer au psychiatre qu'il est communiste, ce qui suffit à le faire
éviter. À cette période-là, c'était l'argument.
Voilà,
quoi.
T'es malade, t'es homo, là ça passe. Ouais. Alors, par contre, si tu es communiste, c'est mort.
Déjà, faut s'estimer heureux qu'il lui ait pas arrivé des problèmes, parce que ouais. À cette période-là, c'était la pire période aux États-Unis avec le communisme, c'était un enfer. C'était juste la guerre contre le communisme, donc...
C'est ça. Bah après, c'était pas quelqu'un de très influent, donc à partir de ce moment-là, on pouvait éventuellement lui foutre la paix, quoi.
Ouais, parce que,
à cette période-là, il y a énormément d'étudiants qui se revendiquaient de gauche hein, sur les campus, donc ils allaient pas arrêter tous les étudiants.
Ouais, bien sûr.
Donc, ce qui a joué. Et l'assassinat de Kennedy va énormément le marquer, du coup, bah, déjà parce que c'est... un assassinat du président filmé en direct, mais surtout ça va le marquer à cause de tout ce qui va influencer tout ce qui va jouer sur la période de théorie du complot par rapport à tout ça, genre pourquoi on l'a assassiné, qui est-ce qui l'a assassiné, et ça va beaucoup marquer son cinéma, on le verra notamment avec Blowout
et le Watergate aussi
Watergate bien sûr, parce que ça va être une période où avec l'assassinat de Kennedy et le Watergate, on ne peut plus faire confiance aux élites politiques de ce pays.
Avec la guerre du Vietnam. Hein,
avec la guerre du Vietnam, en plus de tout ça.
Ils ont caché le massacre du My Lai, tout ça. On va dire que les gens avaient plus trop confiance au gouvernement, et c'est ce qui a créé, cette fissure entre les deux.
Et ça va créer vraiment une période aussi cinématographique très riche de cette période du complot. Cette période du complot pour... Où les politiques cachent des choses, on cherche à nous cacher la vérité.
Ce qui était vrai dans un sens.
Oui, c'est ça.
Après, on est dans un climat très très compliqué. C'était pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide et aussi ce qui se passe en Amérique du Sud. Enfin, après, t'as des trucs qui vont ressortir au fur et à mesure.
C'est ça. Après, c'est ça. Mais donc, bref, ça va être une période très compliquée, mais qui va donner une période extrêmement riche pour le cinéma américain, dont Brian De Palma fera partie, parce que c'est une génération qui est complètement marquée par tous ces événements-là. Et donc, à la suite de ça, en 1964, Brian De Palma va tourner son tout premier long-métrage, The Wedding Party, qu'il co-réalise avec son professeur avec qui il a obtenu une bourse, Wilford Leach, et une femme qui s'appelle Cynthia Munro, une autre étudiante. À la base, ça devait être un film à sketch sur l'amour en Amérique, mais le problème, c'est qu'il va y avoir des tensions entre le Brian De Palma et son co-réalisateur et plein d'autres personnes, ce qui fait qu'au final, ils se retrouvent qu'à deux à pouvoir faire ce film, et Brian De Palma peut compter sur sa bourse, et l'autre élève, Cynthia Munro, faisant partie d'une famille assez aisée, va pouvoir financer son film. Mais c'est sur ce tournage-là qu'il va rencontrer d'ailleurs Robert De Niro, qui va beaucoup l'impressionner alors qu'il n'a à peine 20 ans. Donc ça sera le tout premier rôle de Niro. Et ce film va mettre un an à être tourné et 5 ans à se monter et à sortir. Donc ça a été une expérience...
Oui, ça fait un bout.
Ça a été enfanté dans la douleur comme tout premier long métrage. Ensuite, suite à ça, il va monter une petite maison de production avec un ami qui s'appelle Kenny Burrows. Et ça va être une société pour produire quelques films institutionnels et beaucoup de documentaires. Donc il va réaliser des films et des films documentaires sur les logements sociaux des Noirs à la Nouvelle-Orléans. Où il va réaliser aussi des commandes pour le département du Trésor des États-Unis. Avec un documentaire qui s'appelle « Show me a strong town and I'll show you a strong bank ».
Super accent.
Ah oui, d'accord, le frein là, le titre est fou.
Ah bah ça...
Tu t'es entraîné avant, non?
Non, du tout. Bah, « Show me a strong town », j'essaie de faire un effort quand même. Et dans les années 60, donc à ce moment-là, il est installé à New York et il va côtoyer tout ce qui est cinéma expérimental et où il va notamment rencontrer j'ai oublié son nom, celui qui fait les peintures de Marilyn Monroe de toutes les couleurs.
Andy Warhol.
Il va rencontrer notamment Andy Warhol à ce moment-là et il va s'ouvrir donc à ce cinéma expérimental et il va du coup là aussi réaliser des documentaires sur ce thème-là qui s'appelle The Responsive Eye. En 1968, il va réaliser son deuxième long métrage de fiction qui s'appelle Murder à la mode. Donc c'est un film qui va coûter 50 000 dollars à produire et qui va être financé en partie par la société de Palma. Et l'autre moitié du financement va être financée par un coproducteur spécialiste dans le cinéma érotique. Et du coup, pour se faire financer, ils vont faire croire qu'ils font ce genre de film. Sauf que bah, c'est pas du tout ça, hein. C'est un mélange de soap-opéra et de Hitchcock et de burlesque. Et le producteur du coup qui je cite s'attendait à un film avec plein de filles nues va être un peu circonspect face au résultat et ce qui fait que ce film va sortir dans une seule salle pendant 2 semaines.
Donc, ah oui d'accord. Ah, le boycott est monstrueux.
Bah c'est surtout que c'est pas ce qu'il vend quoi donc il va être en mode bon bah du coup voilà ce qui va se passer.
Mais c'est bien, ça montre aussi dans ces années-là que c'était vraiment la débrouille quoi. Les mecs finançaient les films comme ils pouvaient. Il y avait pas des super productions comme maintenant.
Ah bah c'est ça. C'était la démerde. Hein.
Ouais
c'est,
où il y a des réalisateurs qui ont 2 films à leur actif qui sont déjà financés à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est assez intéressant de replonger dans ces époques-là pour voir à quel point certains réalisateurs pouvaient être ingénieux pour vivre de leur passion et pour essayer de montrer ce qu'ils voulaient montrer. Je trouve ça vachement intéressant, c'est que voilà, ils produisaient des films avec 10 000 dollars à l'époque sans problème et je trouve ça cool à apprendre.
C'est ça. Après, un peu plus, c'était une période où le cinéma hollywoodien était un peu en crise, il me semble. Il y avait plein de super productions qui sortaient, mais qui ne rentraient jamais dans leurs frais, parce que c'était à chaque fois toujours plus grandiose, toujours plus cher, sauf que les gens n'y venaient pas. Et ça va être une période, justement, où le nouvel Hollywood américain va justement commencer à naître, et ça va être une grande période de libéralisation du cinéma américain. Ensuite, il va retrouver Robert De Niro, toujours en 68, dans Greetings, qui est l'histoire d'une satire racontant comment 3 jeunes gens vont tout faire pour éviter de partir au Vietnam. Et là, ça va être vraiment son tout premier succès. Ce film va être tourné pour 43 000 dollars et il va en rapporter plus d'1 million. Et il va recevoir l'Ours d'argent au Festival de Berlin de 1969. Donc ça va être le tout premier succès de Palma, ce qui va lui permettre d'être engagé par la Warner, où il va réaliser son, un autre film qui s'appelle Get to Know Your Rabbit, et où cette fois-ci il va se pencher sur un cinéma un peu plus contestataire, parce que c'est un film qui traite la manière dont le capitalisme récupère et neutralise les forces qui cherchent à le contester. Dans ce film-là, c'est un homme qui va quitter son entreprise pour devenir magicien et vivre une vie d'artiste, mais il a tellement de succès que tout le monde se met à s'habiller comme lui et à adopter son mode de vie. Le problème, c'est qu'il ne va pas du tout s'entendre avec son producteur, et du coup, ce tournage va être horrible, il va être dégagé du film et il va perdre tout le contrôle sur le montage. Le film sortira 2 ans plus tard, en 72, et c'est un épisode qui l'a énormément marqué, parce que depuis ce jour, il ne fera plus trop confiance au studio.
Ouais, c'est un massacre, le film a été démonté, remonté dans tous les sens. Enfin, on commence à connaître Warner Bros, hein, qui, voilà, leur méthode ne date pas d'hier. On a eu les récents exemples avec le DCU, mais voilà, ça date pas d'hier. Quand la Warner a quelque chose en tête, même à l'époque, c'était déjà c'était eux qui commandaient, quoi. À partir du moment où c'était eux qui mettaient l'argent sur la table, ils pouvaient exploser un film s'ils avaient envie, et c'est à peu près ce qu'ils ont fait, parce que du coup, de ce que j'ai lu, voilà, en préparant la mission, c'est, comme t'as dit, c'est une expérience qui l'a vraiment traumatisé, et ça fait que il a eu tendance à rentrer plus facilement en conflit avec les sociétés de production. De peur de perdre le contrôle de ces films.
Ah bah, il y en a eu plein, hein. Mais c'est propre aussi à toute cette nouvelle vague hollywoodienne où les réalisateurs doivent vraiment se battre constamment pour imposer leur vision des choses, et même plus tard, c'est pas fini. On a un exemple avec Scorsese, il s'est vraiment battu avec les Weinstein, que ce soit pour notamment sur Gangs of New York.
Mais les producteurs, ça a toujours été enfin, c'est pas nouveau, même à cette époque-là, parce que rien que pour le mépris, Godard, je crois que les producteurs avaient demandé que ce soit Bardot, et les producteurs voulaient qu'il y ait une scène de nu, qu'on la voit à poil, quoi. Et en fait, lui, il a créé toute une satire sur ça, avec le début, est-ce que on la voit filmée, oui.
Et mes fesses, tu les aimes,
ouais,
mes fesses.
Et ça, c'était vraiment pour se foutre de la gueule du producteur, quoi.
C'est ça. En fait, c'est ça. Après le système français est un chouïa plus différent. Il y a un peu plus, on laisse un peu plus de place, il me semble, quand même aux réalisateurs par rapport au cinéma américain, où c'est vraiment le producteur qui a le dernier mot.
Ah, c'est moins industrialisé en France, quand même.
C'est pas un autre débat, mais
je dis ça dans le sens où on laisse quand même un peu plus de liberté au réalisateur de faire ce qu'il veut. Je veux dire, c'est pas les financements qui contrôlent vraiment de A à Z les films. Je trouve qu'on fait quand même assez confiance.
Je pense que le cinéma français à cette époque-là, il était peut-être un peu plus, je vais pas dire marginal, dans le sens indépendant. Il était moins accessible aussi, je pense.
Moins accessible, je sais pas, parce que la nouvelle vague française a eu déjà ses moments de gloire.
C'est le même public, les gens qui vont regarder du Godard ou même du Chabrol. Ils vont pas regarder, tu vois, des western spaghetti, tu vois. Est-ce que c'est le même public? Je ne pense pas, tu vois.
Je pense en vrai que ça pouvait quand même se jouer. Mais surtout, quand même, la nouvelle vague a énormément influencé le monde.
Oui,
à un moment donné,
il
y a un moment donné, quand même, le cinéma français faisait beaucoup plus d'entrées que le cinéma américain. C'était des succès absolument phénoménaux dans les années 50 et 60.
Oui.
Ouais, puis il y avait peut-être un peu plus de public pour ça aussi, hein, en France qu'aux États-Unis. Il y avait peut-être un public un peu plus curieux, un peu plus
qui avait un. C'est aussi en termes de revenus, les gens qui avaient les moyens aussi d'aller au cinéma.
C'était une autre époque.
Il y a le contexte social à prendre en compte, bien sûr.
Ouais. En tout cas, et du coup, pour revenir à Brian De Palma, c'est à partir de ce moment-là que il va enchaîner les films à partir dans les années 60 et 80, qui ne vont être quasiment tous de francs succès critiques et commerciaux, dont on peut en citer quelques-uns. je sais pas, c'est quoi, vous avez vu d'autres films de De Palma, qu'est-ce qui vous a marqué comme film à propos dans cette période?
J'aimerais bien vous parler un peu de Carrie, qui est devenu culte. Il a été réalisé en 76 et c'est basé sur le roman de Stephen King. Déjà ce film est connu du coup pour parce que finalement ce film est une démonstration d'une certaine ingéniosité de la part du réalisateur, et aussi c'est un tournant dans le cinéma d'horreur. Voilà. Donc
c'est pas la première adaptation en film de Stephen King, d'un livre de Stephen King.
Non, t'as eu Kubrick, je crois. Je sais
c'était
pas
avant.
Il est sorti.
Shining, c'était avant.
Je sais pas.
Nous allons vérifier ça en direct. Non, il me semble que c'est juste après.
Shining, il me semble que c'est les années, c'est 80.
C'est 80. Ah. Ouais, alors, c'est et Carrie, c'est quoi 70...
C'est 77.
77. Ah, 77.
Oui, peut-être sorti en France, mais 76 aux États-Unis, peut-être il doit y avoir 6 mois de battement ou un truc comme ça.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai. Alors oui, peut-être, oui.
Donc, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le voir, enfin, ceux que vous allez le voir...
c'est un ordre.
Il y a une des scènes très connues dans la séquence du bal, mais même je pense que si vous n'avez pas vu ce film et que vous le connaissez, je pense que vous en avez entendu parler.
C'est la scène la plus connue.
Oui, très certainement, tout à fait. Alors du coup, dans cette scène où Carrie White vit un moment assez compliqué de sa vie, où cette scène finalement implique une configuration où finalement il y a une technique d'écran partagé pour présenter le chaos sous différentes perspectives. Néanmoins, la véritable magie de cette scène réside dans l'utilisation d'effets pratiques, dont la robe de bal imbibée de sang, ensuite pour l'effet du son qui coule. Et à ce moment-là, en fait, Palma a installé une plateforme cachée au-dessus de l'actrice, où en fait le sang du porc devait être libéré au bon moment, créant ainsi un moment assez heurtant.
Ok.
Et du coup, je vous explique la petite anecdote. Alors le jour du tournage, De Palma, il a choisi de pas informer l'actrice au moment précis où le sang allait être libéré. Donc, lorsque le sang coule, c'est-à-dire que c'est de manière inattendue, la réaction est instantanée, voilà, spontanée de la part de l'actrice, et donc authentique. Et en fait, cette décision du réalisateur a déjà non seulement créé une réaction plus réaliste, mais a également contribué à une véritable horreur vécue à la fois par le personnage et par l'actrice. Bon, après, ça reste discutable, hein, parce que bon,
oui,
on peut parler de Kubrick aussi et dans Shining.
Oui, ou Hitchcock aussi. Il y a plein de, réalisateurs.
Il y en a qui aiment bien faire ça, ouais.
Qui aiment bien faire ça. Ce que tu me fais penser à l'anecdote de tournage sur L'Exorciste, où le réalisateur, ce qu'il faisait, c'est bon, déjà il plongeait la pièce dans des températures avoisinant 0 degré pour pouvoir voir la vapeur, et ce qu'il faisait pour qu'on voit la tension à l'image, c'est que juste avant de dire action, il tirait un coup de feu en l'air et ensuite il fait hop action, et du coup il devait jouer tout de suite pour que les acteurs soient tendus et que ça se voit à l'écran. Donc c'est des méthodes discutables, mais en même temps le résultat est fou. Donc
faut nuancer, voilà, je pense.
Oui, voilà. Disons que quand Hitchcock balance des vrais oiseaux à l'actrice en disant t'inquiète, c'est des faux, là c'est discutable.
Ouais, voilà.
Enfin bref. Mais cette période, cette technique de l'écran partagé dont tu me parles, moi ça me fait penser à Phantom of the Paradise, que là aussi je vous recommande énormément. C'est un film qui est sorti en 74 et qui est un mélange en fait de Faust et du fantôme de l'opéra. Là aussi, et avec une histoire de vengeance sur l'industrie musicale. Je vous le recommande vraiment chaudement parce que, bon, déjà, musicalement, c'est absolument fou. Et esthétiquement, c'est très beau aussi. Et à un moment, on a ça aussi, cette méthode de l'écran partagé, où on voit justement le fantôme de l'opéra d'un côté de l'écran qui pose une bombe et se cache, et de l'autre côté de l'écran, l'endroit où il a posé la bombe se déplacer et voir les réactions en direct. Donc, ça aussi, ça fait partie des, bon, ça fait partie de ces films qui malheureusement ont un peu floppé. À l'époque de leur sortie et qui maintenant sont cultes comme tant de films. Et
ouais, comme Blowout qui a, parce que les gens ils s'attendaient, en fait le public s'attendait à voir Travolta et Travolta dans La fièvre du samedi soir ou dans Grease, et en fait ils ont eu un Travolta totalement différent, quoi.
C'est vrai, c'est que oui, Travolta au départ partait sur on va dire qu'il a changé de cap à un moment donné au niveau des rôles, passant de Grease et de La fièvre du samedi soir qui ont rien à voir avec les rôles d'après.
C'est ça.
Ça montre que c'est quand même un très bon acteur, quoi.
Voilà, oui. C'est assez polyvalent, oui.
Bah, ça montre effectivement la palette que peut avoir un acteur. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure sur un des films que l'on va vous présenter. Mais c'est ça. Il me semble que c'était pas. Il traversait pas une période de creux, justement, Travolta. Et qu'il n'y a que Brian De Palma qui le voulait dans son film.
Je sais pas, parce que tu sais, t'as eu beaucoup d'acteurs comme ça, c'est comme Patrick Swayze. Genre, tu l'as vu dans Dirty Dancing, dans des trucs pour faire un peu rêver les minettes, quoi, de l'époque. Après, tu l'as vu dans Point Break. Voilà.
Ah, et Point Break, oh mon dieu.
Quel film, Point Break.
Il était excellent dedans, hein. Il a été.
Oui, effectivement, ça fait partie de ces choix qui déconcertent.
Voilà. C'est peut-être la prise de risque qui faisait plus peur aux réalisateurs de prendre des acteurs qui étaient ancrés dans des rôles. C'est peut-être plus cette prise de risque qui a fait que peut-être.
Passé un certain âge aussi. Oui, c'est sûr. Il était pas, il était assez jeune dans Blowout, tu vois, mais.
Ça dépend.
Ouais. Mais c'est. Mais Blowout, moi je me souviens très très bien de Blowout parce que j'ai eu l'occasion de voir deux fois dans deux conditions absolument complètement différentes. La première fois que je l'ai vu, c'était à la télé, parce qu'il passait sur Arte, je connaissais pas. Et la première fois, j'étais là, ouais, bon, pas terrible. Et ensuite, merci les sorties scolaires, on allait le voir au cinéma sur grand écran en version originale sous-titrée. Alors la scène de fin, ça a plus rien à voir en émotion. Hein. Parce que la scène de fin, elle est absolument terrible. C'est, je pense, la scène la plus marquante du film. Avec la scène où il prend des sons un peu partout et où il est témoin de cet accident de voiture. Mais c'est un des films qui m'a vraiment le plus marqué. Je pense que c'est un de mes préférés de Brian De Palma.
Moi, c'est devenu mon préféré, du coup.
C'est ton préféré, Blowout ?
Ouais, non, c'est devenu mon préféré. Moi, j'aime beaucoup les Incorruptibles. Ouais, bah après, c'est un petit sentiment un peu familier, quoi. Mais ouais, c'est devenu.
Et du coup, moi, je vais vous parler des années un peu plus tard. Donc, on va parler des années 90 et des années 2000, où malheureusement, De Palma enchaîne les échecs commerciaux. Je précise commerciaux. Généralement, le budget du film dépasse plus que celui des recettes engendrées. Donc ça fait que voilà, au final il sait pas trop vers quoi se tourner parce que il réalise L'Impasse sous les conseils d'Al Pacino, il fait L'Impasse, Outrage et Le Bûcher des Vanités, et tous les trois sont des échecs commerciaux. Donc voilà, après il a une petite période, je pense, de remise en question dans ces années-là, et il retrouve le succès avec Mission Impossible. voilà, production un peu plus hollywoodienne et c'est le premier blockbuster, je crois, concrètement, qu'il fait. Mm-hmm. On peut appeler ça un blockbuster, je sais.
Oui, dans l'idée, je pense qu'effectivement, ça peut être ça. C'est une licence qui était connue avant, qu'on reprend, on fait un gros film à gros budget.
Voilà, c'est du coup, donc il réalise Mission Impossible, qui est l'adaptation de la série de base, où c'est Tom Cruise qui le choisit personnellement pour le réaliser. Et bon, là, gros succès, du coup, plus de 400 millions de dollars de recettes, je crois, ce qui est quand même assez énorme.
Pour un budget de combien ?
Je sais pas, honnêtement, je saurais pas te dire, je vais pas te dire de bêtises, mais c'est sorti en 96, alors déjà 500 millions en 96, wow, c'était déjà respectable. Et du coup, ça le relance un peu. Ça le relance un peu, mais dans les années 2000, il fait rien de foufou non plus, dans le sens où, au niveau commercial, alors, c'est pas un réalisateur qu'on peut qualifier de commercial. Voilà, c'est un réalisateur qui a touché un peu à tout, qui prend un peu des risques, qui s'essaye à un peu tous les genres. Mmh. Et du coup, ben voilà, hein, quand on essaye plein de trucs, on se plante forcément à un moment donné, ou alors faut vraiment être très ouais. très fort. Mais dans tous les genres, à un moment donné, on peut pas être irréprochable dans tous les genres. Mmh. Mais voilà, globalement, dans ces années-là, c'est les années un peu où il teste pas mal de choses. Et malheureusement, c'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, sauf pour Mission Impossible, qui démarra une saga folle derrière. Et aussi, j'ai relevé une petite anecdote, c'est qu'on lui a proposé ce Truman Show.
Oh,
ok.
Ouais.
D'accord.
Et sauf que lui, il voulait pas Jim Carrey, il voulait Tom Hanks. On lui a dit non, ce sera Jim Carrey. Il a dit, eh ben, ce sera pas moi. Et du coup, il a fini par pas faire ce Truman Show. Mm. Bon, quand on voit ce que c'est devenu au final, on dit que c'est pas si grave.
Disons que les deux, je pense Brian De Palma avec Tom Hanks, ça aurait été très bien, mais le film avec Jim Carrey lui aussi très bien.
Ouais.
Donc voilà, il n'y a pas de regret à avoir.
Donc voilà, c'est quand même assez dommage parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est un réalisateur qui s'est quand même essayé à tout et qui n'a pas toujours eu la confiance qu'il méritait, notamment de la part des studios. Mais ça reste quand même un réalisateur très culte et qui au final voilà, a fait plein de films qui sont devenus cultes par la suite, mais qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur.
Disons que la période des années 2000, c'est une période vraiment assez compliquée hein, pour De Palma. Hein.
Même pour beaucoup de réalisateurs, en vrai, les années 2000, c'était un peu le bordel.
Y en a qui arrivent quand même à s'adapter, tu vois. Il y en a qui arrivent, quand on prend le nouvel Hollywood ou toutes les autres anciennes franchises qui reviennent, bah, ça marche plutôt. Scorsese, ça va, il a jamais eu de grosses difficultés dans les années 2000. Pareil pour Spielberg, pareil pour George Lucas, enfin c'est Francis Ford Coppola, ça marche aussi. Enfin, toute cette génération du nouvel Hollywood, ça va. C'est vraiment pour De Palma que je trouve que c'est compliqué. On le voit très bien avec le premier film des années 2000 qui sort, c'est Mission to Mars.
Pas
grand chose à dire, quoi.
J'ai pas vu, mais j'ai lu que c'était apparemment, c'est vraiment pas terrible. Hein.
Par rapport à ce qui nous a servi, c'est vraiment pas terrible. Je vais pas dire que ça aurait mérité un direct ou DVD, mais on est pas loin, quoi. En termes d'effets spéciaux, même d'histoire ou de technique, bon, c'est vraiment pas le plus fameux qui nous est sorti. Et pareil, il sort un moment Brian De Palma, donc un maître du polar et du thriller qu'on a pu voir. Il adapte Le Dahlia Noir, qui est un des plus grands romans de policiers noirs qui soit sorti. Et au final, la critique est assez mitigée. Là aussi, c'est devenu assez impersonnel, son cinéma.
Oui, après,
c'est ce qu'on lui reproche, en tout cas.
De ce que j'ai vu en cours de cinéma, c'est pas quelqu'un qui a inventé des techniques particulières, c'est surtout quelqu'un qui a pris les techniques déjà inventées avant et qui les a recyclées, entre guillemets. Alors, c'est vulgaire comme terme, mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est pas quelqu'un qui a spécialement sa patte. En vrai, tant que ça,
ouais.
Il utilise beaucoup le plan séquence, etc. Mais bon, c'est pas quelqu'un qu'on va reconnaître de suite en regardant un film, quoi.
Pas d'accord, hein. Si tu regardes ses films des années 70 et 70-80, non, il a quand même sa patte. Forcément, il pioche ailleurs, mais comme tout le monde, tous les réalisateurs piochent ailleurs. Mais non, il a quand même sa patte. Il fait des plans quand même assez marquants en termes de technique. Je pense quand même qu'il a réussi à avoir une patte, c'est juste qu'il n'a pas réussi à s'adapter.
Mais peut-être que ses plans, ils sont marquants, parce que finalement, bon, il fait des choix assez judicieux, mais si on découvre un film sans savoir que c'est le réalisateur, je ne pense pas qu'on devine que ce soit Brian De Palma.
Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Oui, c'est ça que je trouve que... Après, il utilise très bien ce qui a déjà été fait, il sait très bien servir des outils déjà présents, mais ouais, c'est pas quelqu'un que si on te dit c'est pas De Palma, c'est pas quelqu'un que tu vas reconnaître comme ça à travers son cinéma, je le trouve. Ouais. Après, bon, je préfère préciser, je suis assez novice dans sa filmographie, je dois en voir 4 ou 5 grands max, et c'est quand même quelqu'un qui a pondu, je sais pas combien de films, mais assez violent quand même, un nombre assez violent. Du coup, bon, mais c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion d'étudier à travers le film, du coup, que je vais vous présenter après, et de ce que j'ai compris, ça se résume à peu près à ça.
Ouais, bah après, c'est absolument pas dénigré. Hein,
De
Palma, ça reste un des grands réalisateurs, surtout de la fin du XXe siècle. Plus de mal au XXIe, mais ça reste un des grands réalisateurs américains qu'il faut voir, simplement.
Ouais, ouais, puis c'est vraiment quelqu'un qui a testé plein de choses et qui a expérimenté plein de trucs, peu importe ce qu'on a pu lui dire ou le prévenir ou le saboter par rapport au studio. Donc c'est quelqu'un qui a ce mérite là déjà.
Ouais.
Voilà.
Bon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À moins que vous ayez d'autres petites choses à nous partager là-dessus. T'avais pas une anecdote à nous dire sur le doublage français de Carrie? Oui.
non, dans Blowout.
Dans Blowout. Ok.
Ouais. Désolé pour mon accent anglais. Hein. En fait, Travolta pour la VF a demandé que ce soit Depardieu. Que ce soit Depardieu en gros qui le
double.
Exactement, merci. Voilà.
Ok, bah
mais pourquoi d'ailleurs, genre comme ça, il avait entendu sa voix en français, ça l'a fait kiffer, genre.
J'ai entendu ça. Après, peut-être que je vous raconte des énormes bêtises, mais c'est en écoutant une analyse filmique sur Blowout où le monsieur a mentionné ça.
Ok. Voilà. Okay. Bon, écoute, en vrai. Sympa, hein, petit, comme anecdote. On s'attend pas à entendre Depardieu là-dessus. Hein.
Oui.
Enfin bref, bon. Ceci conclut donc la première partie de notre émission. Je vous retrouve tout de suite après cette pause musicale afin de vous présenter chacun un film qui nous a marqué de la part de Brian De Palma. Je vous laisse donc en compagnie de Giorgio Moroder avec Push It to the Limit.
Don't look down, just keep your head or you'll be
bien, nous allons donc attaquer cette seconde partie d'émission. Donc je vous répète le principe. Chacun d'entre nous va vous présenter un film du réalisateur qui l'a marqué pour différentes raisons. Et évidemment, nous allons allègrement spoiler certains films. Donc évidemment, si vous ne les avez pas vus, nous vous les conseillons, évidemment. Et si vous les avez vus, eh bien, tant mieux pour vous. Eh bien, comme d'habitude, je vais commencer en vous présentant, je pense, le chef-d'œuvre de Brian De Palma, à savoir Scarface. Donc Scarface, c'est un film qui est sorti en 1983, qui est un remake d'un film sorti en 1932 et réalisé par Howard Hawks. C'est le 16e film de Brian De Palma qui sort juste après Blowout, qu'il a réalisé en 81. Dans Scarface, nous retrouvons Al Pacino, donc, qui a joué dans Les Trois Parrains de Francis Ford Coppola, où il interprète Michael Corleone. Il a joué dans Heat de Michael Mann, aux côtés de Robert De Niro. Ou aussi dans Insomnia de Christopher Nolan, avec l'acteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai encore.
Robin Williams,
voilà. Je ne sais pas si vous les avez vus, Insomnia, mais Robin Williams joue un rôle très différent de ce qu'il a l'habitude de jouer, là encore. Donc je vous le recommande chaudement.
Non, j'ai pas vu, je crois que c'est le seul que j'ai pas vu de...
Donc Al Pacino qui, dans Scarface, interprète Tony Montana. Ensuite, nous avons Stephen Bauer qui joue son meilleur pote, celui avec qui il fait tous les coups, que l'on connaît notamment pour car il a joué dans Breaking Bad et Better Call Saul.
Ouais, il joue c'est beaucoup. C'est Don Eladio.
C'est ça, ouais. C'est Don Eladio. D'ailleurs, vous avez aussi reconnu un autre acteur de Breaking Bad dans Scarface, Monsieur Sonnette.
Ah oui, oui, c'est Hector Salamanca dans Breaking Bad, mais je ne sais plus comment il s'appelle.
Et il joue aussi dans Scarface.
Ouais, ouais, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, il joue...
L'homme de main.
Ouais, ouais, il joue un homme de main, ouais, c'est vrai.
Ensuite, nous avons Michel Pfeiffer, qui joue la future femme de Tony Montana. Que l'on a vu dans Catwoman, dans Batman le défi et aussi dans Scarface, c'est ces deux films les plus connus.
C'est pas mal déjà.
C'est ça. Et ensuite nous avons Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui joue la sœur de Tony Montana, que l'on retrouve dans Abyss de Cameron et aussi dans Robin des Bois de Kevin de Reynolds. Donc on nous offre là un très bon casting et j'ai choisi ce film parce que je pense que Scarface, ça fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma, rien que ça. On nous raconte l'histoire de Tony Montana, un immigré cubain qui fuit la dictature cubaine, mais il fuit. Mais en fait, c'est pas quelqu'un qui fuit la dictature, c'est quelqu'un qui était envoyé, qui était en prison à Cuba, et Castro en a profité pour vider les prisons de tous les criminels cubains pour les envoyer aux États-Unis. Et donc Tony Montana fait partie de ces gens-là. Et comme il en a marre de travailler, de gagner sa vie honnêtement, de manière pénible, sans gagner beaucoup de sous, il va se lancer dans les crimes, tout d'abord comme homme de main, puis il va petit à petit monter les échelles du crime organisé jusqu'à devenir un des plus grands barons de la drogue de la côte ouest des États-Unis. Je pense qu'on peut résumer le film comme ça.
Oui, c'est oui.
Sans trop spoiler pour l'instant, évidemment. Et donc, je pense que c'est un film qui est parfait en tout point. Il est parfait dans son histoire, parce qu'on suit la montée en puissance jusqu'à la chute vertigineuse de ce personnage, qui est un symbole de ce rêve américain via le gangstérisme. En termes d'effets de montage et de technique, je pense que là aussi les séquences où on voit où Tony Montana s'agace intérieurement avec ses grands zooms très inquiétants sur ses yeux, je pense que c'est un très bon moyen de montrer les émotions sans les jouer techniquement. Et c'est une réalisation absolument parfaite. Les acteurs sont absolument fantastiques. Je tiens à préciser que je l'ai vu en version originale sous-titrée, parce que la version française, j'ai un peu de mal à comprendre l'accent cubain de Tony Montana. Parfois, j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit, donc je l'ai utilisé en VO, ce qui nous fait profiter du coup du jeu complet d'Al Pacino.
Ah ouais, c'est monstrueux.
Et de tous les autres acteurs. Et c'est absolument fantastique. Je pense que c'est un des plus grands drames de gangsters avec Le Parrain.
C'est les ouais, deux mais c'est, cite, hein. C'est deux piliers, quoi.
C'est ça.
Enfin, Scarface, ça a replacé dans le contexte, déjà. Ça a donné lieu à tellement de références. Enfin, Tony Montana, c'est un mythe, maintenant, quoi. C'est une référence pour, dans beaucoup, beaucoup de domaines.
Si vous avez joué à GTA Vice City Stories, Vice City, tout simplement... Oh, je pense que vous avez vu Scarface. C'est ouais, quasiment voilà, la même chose.
Oui, voilà, c'est en fait c'est Tony Montana, c'est une référence dans le cinéma de gangster et ça l'est tellement que voilà, c'est rentré dans la culture populaire, mais d'une force, c'est impensable quoi.
C'est ça.
C'est pas les débuts des films de gangster, mais c'est les premiers gros films de gangster qui Scarface, c'est la référence quoi avec Le Parrain, c'est
la référence des années 80, en tout
cas. Ah ouais, mais même, oui, quand on pense à un film de mafia ou film de gangster, Scarface vient automatiquement, quasiment, quoi.
Exact.
Donc c'est impressionnant.
Mais après, Tony Montana, effectivement, c'est une idole encore, c'est quasiment devenu une idole pour certains. Parfois un peu mal compris, j'ai l'impression, parce que effectivement, c'est le rêve de l'ascension américaine. Mais quand on voit tout le sang qu'il a sur les mains pour en arriver là,
ah oui, c'est sûr.
Parfois on se dit « Ah ouais, c'est vraiment ça ton rêve ? C'est vraiment lui ton idole ?»
C'est sûr, ouais. Après, bon, problème qu'il peut y avoir, c'est que maintenant, quand on le découvre maintenant, c'est qu'il est trop culte, limite. C'est qu'on peut être un peu, déçu dans le sens où c'est tellement rentré dans la culture populaire et c'est tellement survendu, et à juste titre d'ailleurs, qu'au final on s'attend à un truc de fou furieux. C'est un excellent film, mais c'est un film qui a posé les bases du genre, et du coup c'est le classique film de mafia, donc c'est pour ça qu'on peut être à la limite un peu déçu. Moi c'est le sentiment que j'ai eu.
C'est ce que t'en as pensé?
Non, dans le sens où c'est le film de référence, tu dis waouh, là ça va être incroyable, c'est un excellent film, mais c'est exactement ce à quoi on s'attend en fait. Et du coup on peut être entre guillemets déçu de ce côté là, mais globalement, enfin, rien que la performance d'Al Pacino, ça relève tout le film, et en plus ça a bien vieilli, je trouve, quand même.
Oui,
je l'ai découvert il y a quand même un long moment, mais ça a bien vieilli. Et voilà, c'est le classique film de mafia, mais voilà, il fallait qu'il y en ait un qui sorte avant les autres, et enfin, c'est la base d'un film de mafia, et c'est tout ce que ça peut présenter, ça le fait très bien. Donc voilà, c'est Scarface, ouais. Quoi, il y a pas besoin d'épiloguer plus.
Et toi, Jade, t'en as pensé quoi ?
Moi, je l'ai vu il y a pas mal de temps. Ça reste un film intéressant en tout point, et puis même le jeu des acteurs, vraiment il n'y a rien à dire. Mais après je te rejoins dans le fait que finalement il est devenu tellement culte qu'il est trop culte, et puis tu t'en entends, les références dans certains films, c'est bourré des références à Scarface, et même dans la musique, et je trouve qu'au final ça dénature un peu le film.
Il est victime de son succès.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est la phrase, je pense, la plus adéquate.
Ok. Parce que moi, j'avais pas du tout eu ce sentiment-là quand je l'ai découvert. Je l'ai découvert très récemment, Scarface.
Ok.
Parce que ça fait partie des très nombreux classiques du cinéma que je n'avais pas vu. J'ai pu le trouver et le regarder. Et je savais que c'était un film absolument culte. Enfin, j'avais déjà vu les références, on m'en avait déjà parlé, la fin, je la connaissais. Évidemment, il est tellement culte, quand on s'intéresse au cinéma, on est obligé d'en parler. Et moi, au contraire, j'étais pas en mode « Ah oui, c'est culte, et on l'a un peu monté en épingle et tout, je suis déçu. » Au contraire, moi, quand je l'ai vu, j'étais en mode « Ok, il mérite effectivement bien ce statut culte. »
T'as compris pourquoi. Okay.
Complètement. Et à la fin, j'étais oh la vache, enfin, c'était vraiment un coup, tu vois.
C'est surtout que je trouve que ce film était tourné dans tous les sens, tu vois. C'est, il a été tourné dans tous les sens. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être un monument du cinéma, etc. Mais quand je te dis que je trouve que ça l'a dénaturé, c'est-à-dire que c'est un film qui est bien, très bien. C'est comme par exemple, on va te dire, ouais, quand tu sais, Game of Thrones est sorti, regarde Game of Thrones, regarde Game of Thrones. Mm-hmm. Au final, bon, c'est pas trop mal. Même des fois, t'as pas envie de le voir, quoi. Tu vois ce que je veux te dire?
Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire.
Il y a un tout, quoi.
Ok, très bien.
Après, ouais, enfin, ça reste Scarface quand même, donc c'est une référence à avoir, c'est un truc à avoir vu.
Je compare pas du tout ça à Game of Thrones. Hein.
Ouais, non, mais oui, bien sûr. non, mais bien sûr, mais oui, c'est.
Scarface, Game of Thrones, ça fait pas la même chose.
Il est victime du. Et encore, c'est une œuvre plus vieille, donc voilà, mais c'est une surmédiatisation qui fait que, au final, ça peut être repoussant pour certains. Te dire, bon, on a compris. Oui. Mais le problème, c'est que voilà, c'est le classique du film de gangster, et après, tu comprends vite pourquoi, quoi.
Mais ce dont vous me parlez, effectivement, ça me fait surtout penser à Avatar. dans le principe, aussi. Je parle pas dans le cinéma, mais dans le principe, ça me fait penser à Avatar. Oui. C'est waouh, c'est génial, le meilleur film, tout ça. Ouais. Oh, le film sans ses effets spéciaux, il raconte rien. Hein.
oui, c'est au niveau scénaristique, on a vu plus développé, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, ouais, mais voilà.
Je vois ce que vous voulez dire, oui, je peux comprendre.
C'est d'une trop grosse hype, je pense. Mais ça en reste pas moins, un chef-d'œuvre, quoi. C'est la base, voilà. Ouais. C'est pilier.
Juste avant de passer la main, bon, je pense que vous connaissez sûrement cette petite anecdote, mais la fameuse scène de fusillade qui est absolument impressionnante en termes pyrotechniques.
Elle est très même brute, brute. Ouais, c'est.
Et c'est Spielberg qui est passé par là.
Ah ouais,
okay.
D'accord.
Oui, okay.
Oui, en gros, il passait sur le tournage, il a filé un petit coup de main à Brian De Palma. Et du coup, dans le making-of, tu le vois derrière la caméra à faire coucou pendant qu'il filme.
D'accord, ok. Ah putain,
voilà, donc Spielberg était là. Ah oui, qu'est-ce que tu fais, Brian?
Je suis en train de tourner un film de fou, là.
je tourne un classique. Tu peux pas comprendre, toi.
Ok, d'accord. Donc, voilà. C'est stylé, ça.
Bon, évidemment... Évidemment que à titre personnel, je vous recommande Scarface parce que c'est un film absolument culte. Tout le monde sait qu'il faut absolument voir. Hein. Il est dans il est dans tous les films, les 100 meilleurs films de l'histoire. Vous le trouverez assurément. Donc je vous le recommande personnellement et très chaudement. Et vous?
Oui, quand même. Hein. Oui, c'est à avoir vu. Hein.
Oui, bien sûr.
Eh bien, nous allons donc passer à l'autre film. Jade, de quel film vas-tu nous parler?
Alors moi, je vais vous parler des Incorruptibles, ou The Untouchable en anglais. Alors, c'est un film policier qui a été réalisé en 1987 par Brian De Palma. Et le scénario a été écrit par David Mamet. Voilà, bon.
Hein. Par lui, là.
Voilà, l'autre. C'est ça. C'est exactement
ça. C'est David.
Alors, ce film, il est plus ou moins basé sur une histoire réelle d'un agent nommé Elliot Ness et qui a pour objectif de faire tomber le célèbre Al Capone à l'époque de la Prohibition. Ce film prend tout de même des libertés avec les faits historiques au niveau de la narration, quoi. Il reste quand même assez, assez convaincant, assez réaliste sur l'atmosphère et l'air à l'époque de la Prohibition. Et aussi à la lutte des forces de l'ordre contre le crime organisé. Alors, la mise en scène a été faite par Brian De Palma. Elle est assez, assez intéressante parce qu'elle est, comme je vous l'ai dit précédemment, est visuellement assez convaincante. Le film utilise un mélange de séquences pleines de suspense, d'action, qui sont assez bien conçues et le décor est plutôt sympathique. Ensuite, dans ce film, nous pouvons entendre la musique d'Ennio Morricone, qui est assez emblématique.
Le grand, l'unique.
Il s'est comme toujours assez... faire ressentir des émotions, quoi. Mmh. Voilà. Et surtout, elle correspond complètement au ton de l'époque. Voilà. Mmh. Et enfin, j'aimerais bien vous parler du scénariste qui a scénarisé Hannibal.
Okay.
Voilà, je trouve ça pas trop mal. Et les dialogues sont assez intéressants, assez convaincants, assez crédibles par rapport aux faits historiques. Ensuite, le casting. Alors, nous avons pour jouer le rôle d'Eliot Ness le célèbre Kevin Costner, qui a joué dans beaucoup de films, Danser avec les loups. Il a réalisé un film qui a fait un flop, qui je trouve super bien, c'est Waterworld. Vous l'avez vu?
Non.
Tu l'as vu?
Moi, il me semble.
Ouais. Il est vraiment. C'est dommage. Hein, c'est un film dystopique. Bon, ça n'a rien à voir avec.
Mad Max sur l'eau.
ouais, plus ou moins. C'est vrai. J'y ai jamais pensé, mais ouais, plus ou moins. Voilà.
Ah oui, j'ai vu ça. Oh, il est long, c'est vrai.
Il est long, mais il est bien.
Ouais, bah, c'est
moi,
pas
je m'en lasse pas de ce film. Enfin bref. Ensuite, nous avons le célèbre acteur Sean Connery qui nous livre une performance oscarisée. Nous avons Robert De Niro qui joue le rôle d'Al Capone. Bon, je pense qu'on en a beaucoup parlé de De Niro.
Oui, il y a de quoi dire, mais oui.
Voilà. Et Andy Garcia aussi, qui est un très bon acteur. Il a fait beaucoup de second rôle. C'est dommage parce qu'il est.
Il a joué dans quoi d'autre?
Il a joué dans un film, je crois. Attends, je dis.
Ocean's Eleven.
Mais non,
oui, déjà.
Cet acteur a joué dans un film.
Ouais. Ocean's Eleven, et là, je suis en train de voir Le Parrain 3, il a fait.
Ouais.
Ah ouais?
Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est que les second rôles, en fait, c'est qui est dommage. Ouais,
c'est ça. En fait, tu le vois.
Bah, c'est
des acteurs
de second rôle.
Mais t'as des acteurs, tu les vois, tu les connais, mais tu saurais pas dire. À lui, je sais, il a joué dans tel film.
Oui, ou même le nom.
Ouais, ouais.
Mais c'est dommage parce que c'est un acteur très très charismatique quand même. Ouais. Moi, je trouve assez impressionnant. Ouais. Je trouve ça assez dommage, mais bon.
Ouais, il a peut-être pas fait les bons choix, hein, je sais pas. Bon. voilà. Ensuite. Alors. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les personnages sont assez bien interprétés.
Oui.
Eliot Ness et Al Capone, on voit qu'il y a quand même des dilemmes moraux. Ness, il est quand même confronté à la justice. Il y a une comparaison entre justice et cruauté. Bon,
ouais.
Après, c'est assez manichéen, tout de même.
Ça peut bien, pas bien, ouais, bien sûr.
Parce que je pense que, tout de même, la police a, comme toujours, a pu faire des fautes. Mais Al Capone, bon, je pense que, au-delà d'être un gangster, bon, ça reste un enfoiré, mais
il avait des sentiments.
Voilà, je pense.
C'était un humeur avant tout.
Du coup, ce film, il explore les thèmes de la justice, de la corruption et du prix à payer pour faire respecter la loi. Bon film américain. Il explore aussi les sacrifices consentis par les agents chargés de l'application de la loi dans leur quête de justice et les complexités morales impliquées dans la lutte contre le crime organisé. En résumé, Les Incorruptibles est un bon film policier. Il n'est pas non plus... On a vu mieux, mais il est quand même, c'est pas négatif comme terme, mais il est divertissant. C'est un film qui se regarde, c'est intéressant, c'est un film à regarder un dimanche après-midi avec la famille, c'est sympathique, quoi.
Ok.
Et après, j'aurais pas de critique particulière, juste à dire qu'il est pas mal, quoi.
Okay.
Voilà. Et
très bien. Et ben, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film. Quand je l'ai vu, je n'ai pas du tout vu le temps passer.
Ouais.
Vraiment, ça a filé tout seul. L'histoire est fluide. On ne s'ennuie jamais. Mm. Et il est romancé comme il faut. parce que c'est effectivement c'est basé sur une histoire vraie. Hein. Elliot Ness, il a vraiment existé. Les incorruptibles, c'est vraiment comme ça qu'on les appelait. Capone a vraiment été pris pour fraude fiscale. Il est romancé comme il faut. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la vraie vie, Elliot Ness, c'était pas cinq pelés face à Al Capone. Sinon, il avait tout un bureau pour lui.
Il y avait du monde, c'est sûr.
Il y avait un peu plus de monde. Heureusement, ce n'était pas le seul incorruptible qui existe. Mais on le voit bien dans cette. Dans comment Al Capone, il est vraiment infantilisé, ça, je trouve, Al Capone. Al Capone, je l'ai vu vraiment comme un espèce de gros bébé chouineur qui quand il n'a pas ce qu'il veut, il pique une crise. Et à la fin, je t'emmerde le juge et tout. Il veut tabasser tout le monde. Et alors que dans la vraie vie... Capone, c'était pas un rigolo, hein, très loin de là.
C'est clairement pas.
On se souvient du massacre de la Saint-Valentin.
Ouais, clairement.
Mais il se comportait pas comme ça en public. Mmh. Effectivement, il faisait des blagues aux journalistes, il répondait jamais aux questions. C'est tout ça, mais c'était pas un espèce de gros bébé chouineur comme nous l'a interprété De Niro. Mais il nous l'interprète très bien. Hein, la scène de la batte de baseball, elle est un peu glaçante.
Je me demande s'il a raté un rôle.
Il est violent, mais il est pas si violent que ça, ce film.
Il pourrait être bien plus violent.
Après, il démarre fort quand même. L'explosion de la boutique avec la gamine dedans.
C'est pour te montrer que cette guerre des gangs est extrêmement violente.
C'est très très sérieux quand même.
C'est très sérieux, c'est violent. Et tu vois aussi toute la corruption institutionnelle de cette mafia qui est implantée partout. Avec la mairie qui veut freiner Ness, les policiers qui poucavent. Avec les plus honnêtes qui montent jamais en grade et qui continuent à faire la circulation. Donc, moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Hein, le comptable, c'est un des meilleurs persos. Voilà ce que j'en ai pensé. Je le recommande très chaudement, lui aussi. Et toi ?
Eh bien, pareil. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ça faisait partie des classiques que je devais regarder. Voilà, c'est chose faite maintenant. Je trouve que ça reste quand même un excellent film. Au-delà du côté divertissant, je trouve ça assez intéressant. Ça change de point de vue aussi. Ce qui n'est pas tout le temps fait. On a le point de vue des policiers, même du système un peu pourri dans lequel ils baignent. Franchement, je trouvais ça très très cool. Le casting est bien utilisé. Ça aurait pu être très foireux dans le sens où il y a quand même pas mal de grosses têtes. Mais en vrai, concrètement, il n'y a pas grand chose à dire.
De Palma maîtrise son sujet.
Ouais, oui. Ça a pas mal vieilli. Voilà quoi, ça c'est. Pourtant en 87, bon, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu quand même, ça aurait pas été une honte. En 40 ans, mais concrètement, c'est un très bon film avec des bons acteurs, c'est bien interprété, c'est bien fait, il y a pas grand chose à dire. Est-ce qu'il y a un défaut? Je sais même pas. Est-ce qu'il y a vraiment un défaut qui prédomine le film? Non, concrètement.
Je crois pas. Hein.
Non, c'est bien fait, c'est pas excellent, mais c'est très bien fait, ça maîtrise bien, donc allez-y, les yeux fermés.
On voit encore dans ce film un autre cinéma qui a influencé celui de Palma, c'est le cinéma russe de post-révolution russe, avec la fameuse scène du landau qui est complètement reprise avec un très gros hommage au cuirassé Potemkin qui a révolutionné tout un tas de choses dans la technique du cinéma. Ça fait encore partie de ces films où De Palma nous montre toute sa connaissance et toutes ses influences cinématographiques aussi. C'est pas mal. Et toi, pour terminer, mon cher Lucas, de quel film vas-tu nous parler ?
Alors moi, je vais vous parler d'Outrage, du coup, qui est réalisé évidemment par Brian De Palma, qui est sorti en 1989 aux États-Unis et le 10 janvier 1990 en France. Pour résumer, le film, ça suit une patrouille de soldats menée par le sergent Meserve, joué par Sean Penn, durant la guerre du Vietnam. Tout au long du film, on peut voir les dégâts de la guerre sur le mental des soldats, ce qui va nous mener à l'événement majeur du film, l'enlèvement et le viol d'une jeune femme vietnamienne. On suit principalement le personnage d'Erickson, donc joué par Michael J. Fox, et du coup le sergent Meserve, joué par Sean Penn. Le casting autour, je vais pas épiloguer parce que ça reste quand même une patrouille de soldats, donc il y a quand même pas mal de monde. Mais concrètement, il y a pas énormément de grosses têtes, mais il y a 2-3 têtes intéressantes qui...
Les deux plus gros, c'est Michael J. Fox et Sean Penn.
Ouais, mais après, bon, il y a 2-3 acteurs assez sympas qu'on s'amuse à reconnaître tout au long du film, c'est assez cool. Je vais vous laisser, je pense, commencer. Juste préciser, le film, c'est une adaptation du livre Casualty of War, qui est un roman de Daniel Lang, qui à l'époque sort, mais qui rencontre pas le succès parce que on révèle en même temps le massacre du My Lai. Voilà. Qui a un peu
c'est quoi exactement ?
Occulté le truc. Alors pour vous faire courte, le massacre du My Lai, c'est ça a un peu inspiré le film d'ailleurs. Concrètement, c'est une patrouille de soldats qui était menée par un sergent, j'ai oublié le nom, mais qui en gros a perdu un allié qui a été tué dans un village voisin. Et en cherchant ce fameux village, la patrouille de soldats américains tombe sur un village, mais qui n'était pas le bon. Et décide, sous les ordres du sergent, alors c'est pas le sergent, mais du coup c'est au-dessus, c'était le capitaine, je sais plus, j'ai perdu
son nom. De la hiérarchie, hein, voilà. C'est un capitaine qui décide.
Je vais pas dire de bêtises, et en gros, donc la vraie histoire, c'est le capitaine a ordonné tout le monde de désarmer les Vietnamiens, de fouiller tout, et concrètement de tout cramer et de tuer tout le monde. Voilà, donc ça fait quand même 501 morts, si je dis pas de bêtises, j'ai fait un exposé là-dessus, il faut que je me rappelle. Ça fait quand même 501 morts, dont des dizaines de femmes enceintes et d'enfants. Voilà. Du coup, ça, le film s'inspire aussi de ça parce que concrètement, il y a eu 4 personnes sur les faits réels condamnées pour le massacre du My Lai. Dont 3 qui ont été relaxés aux États-Unis et dont un seul, alors c'est Captain Earl, il me semble. Donc c'est le capitaine qui a donné les ordres, qui a été condamné à 20 ans de prison, qui a été réduit à 10, puis qui ont été réduits à 3. Voilà, donc concrètement, il n'y a eu aucune condamnation, sauf lui qui a pris 3 ans de prison, tout ça pour avoir massacré.
Il n'y en a eu aucune.
Non, voilà, c'est ça. En fait, dans la vraie vie, il y a juste lui qui a pris 3 ans et qui a été libéré sur parole. Voilà comment la justice américaine, et du coup on parlait de cette fameuse fracture qu'il y a eu entre le peuple américain et leur gouvernement, ça fait partie quand même ça fait partie des événements qui ont fait que, voilà. Donc du coup c'est adapté du film, du livre pardon, Casualty of War, et c'est pas la première adaptation, parce que la première adaptation c'est Michael Verhoeven qui l'a fait, donc c'est un film allemand qui s'appelle Ok, voilà, que j'ai dû voir pour mes cours de cinéma aussi. Bon, concrètement, c'est un film à très bas budget, mais voilà, c'est adapté du livre et ça a été tourné dans la forêt bavaroise. Bon, ça se souligne. Je l'ai vu.
Ah,
bon,
attention.
Voilà.
Vietnamien.
Ça se souligne. Mais voilà, concrètement, donc Outrage est la deuxième adaptation de Casualty of War, et ça s'inspire aussi de l'incident de la colline 192, donc qui s'est vraiment passé à la guerre du Vietnam. Qui s'est passé en 66, et l'incident c'est l'enlèvement et le viol collectif d'une jeune vietnamienne. Voilà, donc ça s'inspire un peu de tout, mais surtout d'événements qui sont dégueulasses, hein, concrètement, mais c'est assez intéressant. Voilà, donc je vous laisse commencer sur le film si vous voulez.
Écoute, vraiment, là encore un film vraiment assez marquant et assez bouleversant, je trouve. Enfin, moi il m'a bien secoué, qui raconte des événements absolument terribles, une forme de spirale de la vengeance qui va de plus en plus dans la dégueulasserie, qui illustre très bien ce qu'est le viol comme arme de guerre, aussi, qui montre toute cette boucherie et dégueulasserie humaine qui a été du coup le conflit au Vietnam. Donc là, je trouve que au niveau technique, c'est du très bon aussi. J'ai beaucoup aimé certains passages où c'est un passage du début où on voit les soldats américains marcher en enlevant cette, cette femme vietnamienne. On la voit qui se débat, mais l'image, on voit un soleil levant avec les soldats qui marchent tranquillement sur une musique quasi presque héroïque, qui contraste totalement avec l'image de cette femme qui se fait enlever. Ça, c'est un des passages techniques qui m'a marqué. Mais sinon, les scènes de viol et de violence sont absolument terribles dans leur représentation. Elles marchent vraiment, vraiment comme il faut. Mais c'est que la fin, moi, que je trouve un peu bizarre, où il semble, où on voit ce Michael J. Fox qui est absolument traumatisé par ce qu'il a vécu, mais et à la fin, on ne sait pas pourquoi, il semble s'en remettre entre guillemets. C'est ça a l'air, il semble s'être pardonné tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu voir. J'ai pas ça sort un peu de nulle part. Mais sinon, c'est un film absolument impeccable avec un Michael J. Fox vraiment très impressionnant. Là aussi, le film, je l'ai vu en VAO sous-titré.
Ouais.
Et où ça change vraiment de voir cet acteur qu'on connaît surtout pour être Marty McFly de Retour vers le futur, le gars un peu benêt, oh mon Dieu, c'est pas le pied, oh Doc, disons que comment ça vous a fait, qui là se retrouve d'un coup au Vietnam dans des situations de massacre, de bombardement, de piège, de viol et tout ce que tu veux, et il joue vraiment la personne bouleversée. Enfin, il joue le petit jeune qui est bouleversé par tout ce qu'il voit, et ça marche bien. On voulait en parler tout à l'heure. C'est un de ces cas d'acteurs qu'on connaît pour un rôle, mais qui a une palette de jeu absolument formidable.
Ouais.
Et voilà, moi je vous le recommande là aussi chaudement, même s'il est un peu dur. Hein, c'est pas un film qu'on se fait en famille comme Les Incorruptibles, quoi. C'est vraiment, on se dit pas, ah tiens, si on se faisait Outrage, ouais. Oh bah oui, je ramène les enfants et papy-mamie. Non, ça se fait pas comme ça. Donc voilà ce que j'en ai pensé.
Moi je vous rejoins assez sur ce que vous dites. Je trouve que c'était... Bon, au niveau d'émotions fortes, ça c'est sûr que bon, j'ai fait une petite PLS après avoir vu ce film. Mais moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que bon, moi j'aime pas plus que ça les films de guerre, enfin les films qui portent. Mais lui, je trouve que sur les thèmes qu'il approche, pour un film américain, à l'époque où même s'il a quand même été. Il était très controversé, quoi qu'il en soit, ce film. Je trouve que c'était intéressant d'aborder ces thèmes-là, quoi.
Ouais. C'est surtout qu'il se démarque aussi d'autres films sur le Vietnam, je trouve, qui montrent, effectivement, qui sont plus enclins à montrer toute l'horreur du conflit. Je pense notamment au plus culte qui est Apocalypse Now, qui montre vraiment la guerre, mais qui est beaucoup plus timide sur toutes les dérives, par exemple. C'est-à-dire qu'on nous parle, à un moment, il y a ces nénettes américaines qui viennent voir les soldats, sauf qu'il y a un bombardement, c'est l'horreur. Mais on nous parle pas vraiment de toutes les horreurs qui ont pu être commises à l'arrière.
Ça reste en surface, en vrai.
Ça montre, attention, c'est excellent, hein, ça montre vraiment la guerre dans toute sa cruauté, mais la guerre au front, ça montre pas la guerre de tous les jours. Ou pareil pour Platoon. Mais là, ça montre vraiment un épisode où c'est pas vraiment la guerre au front. Là, ils ont une mission, mais ils sont pas littéralement au front. Et tout ce qui peut se passer à l'arrière dans ces zones dites protégées, où au final, les soldats américains, c'est ce que dit Michael J. Fox, on est censé les protéger. Pas tant que ça, hein. Ils maltraitent les populations, se moquent constamment d'eux et les viols, les tortures, les tuent sans aucune once de pitié. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, Michael J. Fox est un peu trop gentil, même parfois, je dirais. C'est-à-dire, ah, regardez, je prête mon chocolat aux enfants, je jette cet agriculteur avec sa vache. Ouais,
il faut un personnage pour... C'est des stratégies aussi dans les films. Tu fais des choix pour faire ressentir de la douceur. Mm. Là, on regarde pas un film de Gaspard Noé, tu vois, qui va te...
J'ai pas la ref, mais je vois ce que tu veux dire.
Ça, c'est pas un truc qui va... Voilà.
C'est... Ok. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais c'est, disons que ça contraste un peu trop, je disais, par rapport... Bah, disons que par rapport à tous les autres soldats, il n'y a pas vraiment de nuance. C'est-à-dire que les soldats sont cruels et méchants, et lui, c'est le seul un peu gentil qui se fait traiter de bonnet. Enfin, voilà, il y a un petit peu de manque de subtilité, mais ça n'enlève rien à toute la qualité du film. Voilà ce que j'en pense.
Moi, du coup, j'ai choisi, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je l'ai étudié et que du coup, ça faisait un bon point de chute. Aussi parce que j'ai mangé pas mal de films de guerre pour les cours. Et ça a été celui, je pense, qui m'a le plus marqué, même le meilleur que j'ai vu, concrètement. On a quand même Tarantino qui qualifie Outrage du plus grand film sur la guerre du Vietnam jamais fait. Mm-hmm. Bon, c'est pas mal quand même. Et voilà, on a Sean Penn qui est propulsé au sommet de sa carrière, au sommet de son art dans ce film-là, je trouve. Il y a une performance qui est quand même assez folle.
Oui.
Il joue très bien le mec qui perd complètement la boule et qui devient juste un sanguinaire, un personnage horrible. Et on a aussi du coup le personnage d'Erickson, joué par Michael J. Fox, qui est intéressant à étudier, parce que comme tu dis, voilà, c'est quelqu'un qui est de nature généreuse quand même, qui essaye d'aider les autres, qui a l'air un peu paumé, et voilà, qui est plus... comme le titre original, c'est Casualties of War, donc du coup c'est un peu les dommages collatéraux, les dégâts qui sont engendrés, les dégâts secondaires engendrés par la guerre. Et Casualties est au pluriel, et au final on se rend compte que la seule vraie victime, c'est la jeune femme vietnamienne. Alors c'est Mao, je crois qu'il s'appelle, il me semble, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est Mao.
Oui.
Et au final on se pose la question, du coup, qui sont les autres victimes? Donc c'est assez intéressant. On peut parler de Michael J. Fox, qui est vraiment qui subit cette guerre, mais qui au final est pas tout à fait un saint non plus, parce que lors de l'enlèvement, voilà, c'est pas quelqu'un qui prend les armes pour arrêter ses équipiers. Voilà, c'est plus quelqu'un qui...
Il est dans une situation compliquée, parce que son sergent lui a sauvé la vie quelques temps plus tôt.
Ouais.
Du coup, en tout début du film, du coup, il se sent un petit peu redevable. Et surtout, quand il sait très bien qu'il est tout seul dans cette situation. Enfin, même le gars... comment il s'appelait, son allié du début, c'est Sanchez, le nouveau.
Ouais, je crois.
C'est quand il y a le Sanchez qui arrive, il pense qu'il est ensemble, mais au final, le Sanchez participe lui aussi à tout ça, et il est seul contre tous. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là où on voit quand même aussi la pression du groupe, la pression de la hiérarchie, où même si t'es absolument contre tout ça, ta gueule et avance. D'ailleurs, là, on le voit bien, à un moment, il fait « Mais c'est pas un enlèvement, ce qu'on vient de faire. Allez, ta gueule, va nous couvrir les devants. » Il a juste posé une question. Il a pas encore remis en cause les choix, le choix de son sergent. Il a juste posé une question. « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, ça montre aussi cette impasse qui est la hiérarchie.
Ouais, clairement.
Militaire en plus.
C'est un beau pétage de câble. Après, ouais, c'est un film qui marque aussi, qui parle un peu des traumatismes liés à cette guerre-là. Ben, ça m'a fait penser aussi à L'échelle de Jacob. Sur ces fameux traumatismes, sur ces trucs post-traumatiques, qui est assez intéressant. Ça reste un film de guerre assez violent, assez cru, mais qui permet de se rendre compte. Un peu des saloperies qui ont été faites là-bas, sachant que c'est inspiré de faits réels. On peut même parler de plus qu'une inspiration quand même, mais voilà, c'est un film assez intéressant à étudier, même à voir. C'est pas un film qui est fait pour le divertissement. Ça traite quand même de sujets assez sérieux, et ça le fait de manière très très sérieuse. Donc moi ça a été une belle surprise quand j'ai dû le découvrir pour les cours. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les films de guerre, ce genre de film avec la ligne rouge, tout ça, ça reste quand même des films à découvrir. Puis la musique, c'est encore Ennio Morricone, donc c'est du sans faute, quoi. Donc n'hésitez pas.
Et si jamais le sujet de la guerre du Vietnam vous intéresse, je vous recommande l'excellent documentaire d'Arte sur le Vietnam, qui est en 7 épisodes, je crois, et qui est vraiment complet et absolument excellent dans toutes les informations, dans la réalisation. je vous le recommande chaudement.
Voilà.
Bon, eh bien, je pense que l'on a tout dit. Avant de conclure, nous allons passer à la toute petite section recommandations rapides. Du coup, on va juste vous expliquer, citer quelques films récents ou non que l'on a vu ou découvert récemment, et voir si l'on a aimé, si l'on conseille ou pas. Alors, qui veut commencer ?
Tiens. Bah, allez, je vais commencer alors.
Quel film as-tu découvert ou...
Alors... il me semble pas que j'en ai parlé, mais alors je l'ai découvert, je crois que quand c'est sorti sur MyCanal, Bullet Train.
Ah oui.
Avec Brad Pitt, l'autre acteur, j'oublie son nom, Tyler Johnson, je crois, c'est son nom de famille. Aaron, peut-être.
Aaron, ouais, il y a ouais. Aaron quelque chose.
Il me semble, voilà, gros casting, du coup, c'est sur un mec qui doit récupérer, alors il me semble que c'est un colis, je sais plus. De récupérer un colis ou un truc comme ça dans un train au Japon. Et en fait, ils sont plusieurs sur la même mission. Et du coup, ça va donner lieu à de nombreuses scènes d'action dans ce fameux train qui doit parcourir un long trajet. Je sais plus jusqu'où. Mais concrètement, c'est un film bourré d'action. C'est magnifique, quoi. C'est
et
magnifique.
Visuellement, les plans.
Ouais, très joli. Il y a plein de couleurs. Franchement, c'est assez fort.
Mais je vous laisse en parler. Je l'ai pas vu.
Mais n'hésite pas, franchement, c'est un très très bon film. Très bonne surprise, je crois, sorti l'année dernière.
Enfin, il y a deux ans, je crois.
Ouais, fin 2022 ou un truc comme ça.
Il était sur MyCanal il y a un an.
Ouais, mais bon, voilà, n'hésitez pas. Je crois qu'il est toujours d'ailleurs, si jamais.
Ok.
N'hésitez pas. En série, je suis en train de me refaire The Punisher.
Mm-hmm.
Pour là, ça commence à faire beaucoup. Là, je crois que c'est la 3 ou 4ème fois. N'hésitez pas,
t'abuses pas. Hein.
Ouais, ça fait partie des rares séries Marvel qui valent vraiment le coup. Avec Daredevil, je crois que c'est les deux premières qui étaient sorties au final. Non, il y avait Agent Carter avant. Bref, mais voilà, The Punisher, c'est deux saisons, mais qu'est-ce que c'est bien. Le casting est parfait, quoi. On pouvait pas mettre meilleur acteur que John Bernthal en Punisher. Voilà, c'est incroyable, n'hésitez pas.
Ok.
Et dernière, après j'arrête, promis, le dernier Mission Impossible. Je l'ai encore revu.
D'accord.
Là, c'est ressorti sur MyCanal. C'est le septième film quand même. Donc, ils auraient pu viser depuis un moment, mais 3, 4, 5, 6, 7. C'est masterclass sur masterclass, n'hésitez pas, franchement. La saga va très très bien se finir, je pense. Il y a la partie 2 qui sort l'année prochaine et ça se finira là-dessus, il me semble. Mais n'hésitez pas, les derniers Mission Impossible, c'est des concentrés d'action et de justesse technique assez forte. Notamment 5-6, c'est assez violent. Donc n'hésitez pas, voilà.
Très bien. Et toi, Jade, as-tu des films à nous recommander que tu as vu récemment ou revu?
Alors, récemment, j'ai revu Jackie Brown de Tarantino, qui est tout de même pour moi un chef-d'œuvre. Oui, je vous le recommande puisqu'il reste intéressant. Après, ne vous attendez pas à... C'est du Tarantino, on sent que... Mais je pense que c'est le moins, entre guillemets, what the fuck...
Le moins délirant.
Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai pas envie de vous le spoiler.
On est juste là pour dire ce qu'on a vu. Voilà. on va pas refaire une analyse. Hein, c'est juste pour savoir.
Après, c'est vrai que là, niveau cinéma et niveau série, je me suis. C'est pas que j'ai fait une petite pause, mais je regarde énormément de documentaires Arte.
C'est très bien. Donc, aussi. Documentaire et cinéma aussi.
Ouais, il faut.
Oui. Mais là, récemment, j'ai vu en deux épisodes sur les Corleone.
Oh.
En Sicile, la Cosa Nostra.
Ouais.
Super, vraiment. Top. Voilà.
Ok, ben moi j'en ai trois à vous recommander de styles très différents. Le tout premier, c'est, il est encore dans quelques salles, c'est Mars Express, que je vous recommande énormément, qui est un film dessin animé français cyberpunk qui montre une enquête policière sur Mars. Je vous la recommande vraiment chaudement parce que ça a été vraiment une claque quand je suis allé le voir. Ça a été un vent d'air frais dans le paysage cinématographique français. En ce moment, il y a Vermine aussi qui est sorti, mais je ne vais pas le voir parce que je suis arachnophobe.
Bah oui, mauvais film là, du coup. Voilà. Mais qui est très surprenant,
qui est un film français assez étonnant. Et donc, je vous recommande vraiment d'aller les voir parce qu'au moins, ça encourage ce genre de nouveautés dans le paysage cinématique français.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Ensuite, j'ai découvert le Rocky Horror Picture Show, qui est absolument grandiose, qui est une forme de parodie de tous les films un peu série B des années 50 avec des extraterrestres, tout ça. Sauf que là, c'est des homosexuels.
C'est très burlesque,
mais monument de la culture queer, vraiment très influent. Franck est absolument magnifique dans son porte-jartel. Ce couple est trop mignon. Et donc, je vous le recommande. C'est une forme, c'est une comédie musicale très burlesque, très qui fait partie de ces un peu midnight movie de l'anglais qu'il faut absolument voir avec des potes. Franchement, je vous le conseille. Et enfin, dans un tout autre style, j'ai vu Chinatown de Roman Polanski, que je vous recommande énormément, parce que c'est une enquête policière assez noire dont le final m'a vraiment marqué. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est marqué, ça part pas dans tous les sens, c'est très sombre. Et c'est le dernier film que Polanski a tourné sur le territoire américain avec le grand Jack Nicholson. Donc voilà mes recommandations.
Ok.
Bon, eh bien je pense que nous pouvons conclure. Ce fut une très bonne émission, ma foi.
Ouais.
Donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram pour Thème Ciné et sur Radio Campus Pau. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Thème Ciné. Salut à tous.
Salut.
Salut, salut.